moment où l'on parle beaucoup de refondation, de reconstruction, notamment organisationnelle à gauche, on va s'attacher à porter le regard un petit peu en arrière, donc non pas aborder les questions d'actualité dans l'entre-deux tours des élections législatives, mais s'attacher à observer l'un des phénomènes organisationnels les plus intéressants de la gauche ces 10 dernières années. Une organisation qui s'est, après tout, au fond, assez peu manifestée lors des derniers mois, lors de la campagne présidentielle, puis encore moins probablement lors des élections législatives, mais une organisation qui a incontestablement marqué le paysage politique, amenant sur l'agenda un certain nombre de questions nouvelles sur le fond, et aussi peut-être une autre manière de faire de la politique. En tout cas, c'était son ambition et son slogan. Cette organisation s'appelle ATTAC, certains d'entre vous l'auront peut-être deviné, et l'occasion nous est donnée de revenir sur le phénomène ATTAC avec sa création, son succès incontestable, et puis sa crise très très forte, dont on a l'impression que l'organisation n'est pas encore sortie, et puis d'autres questions, en particulier celle importante de l'articulation avec les organisations partisanes politiques. ATTAC, l'occasion nous est donnée de nous y intéresser de nouveau, à la suite dans les idées, avec la publication d'un livre, ATTAC, la politique autrement, pour l'interrogation, une enquête sur l'histoire et la crise d'une organisation militante, un livre qui est issu d'une thèse de sociologie, dont l'auteur est avec nous ce soir, Raphaël Vintrebert. Il est enseignant à l'Université Paris 5 en sociologie, et donc il a passé beaucoup de temps depuis pratiquement la fondation d'ATTAC, 1998, on va y revenir, pour comprendre la nature de cette organisation et du coup poser un certain nombre de questions pour certaines classiques, pour d'autres un peu plus neuves de la sociologie politique et de celles en particulier qui s'intéressent aux organisations. Alors pour en parler avec lui ce soir, Éric Agricole-Liansky, qui est professeur de sciences politiques à l'Université Dauphine, qui a travaillé sur l'altermondialisme, comme on dit, le mouvement altermondialiste. Il est l'auteur d'un livre qu'il a codirigé sur le sujet récemment. Je ne me rappelle plus le titre exact.
Deux livres en réalité, l'un avec Isabelle Sommier sur le Forum social européen, l'autre avec Olivier Filleul et Nana Meyer sur l'altermondialisme en France.
Voilà, à chaque fois basé sur des enquêtes très larges, notamment autour de ces militants d'un nouveau type qui sont apparus. Et puis, troisième personne autour de la table ce soir, Christophe Aguiton, qui est à la fois chercheur au Centre d'études des télécommunications, mais aussi partie prenante de ce dont on va parler ce soir, puisqu'il est, il a été l'un des responsables d'ATTAC, l'un de ceux qui ont fait vivre cette association, et il connaît bien en particulier aussi la dimension internationale, puisqu'il a assisté à tous
les sommets. Oui, c'est ça dont je m'occupais entre 99 et 2003.
À l'ATTAC. Alors, il en est assez peu question dans le livre de la dimension internationale, mais en revanche, Raphaël Vintrebert, ce qui vous a intéressé, j'imagine, comme beaucoup d'entre nous, mais vous, en prenant le temps d'y regarder de plus près avec les yeux d'un sociologue, c'est le caractère novateur, au fond, au plan organisationnel de cette association qui est surgie de façon assez étrange, d'une sorte de collage, en fait, entre des associations, des organisations à statut divers, et puis la nouveauté aussi de son mode d'organisation qui d'une certaine façon, l'a rattrapée, et peut-être en partie, on va le voir, à l'origine de la crise qu'elle traverse. Alors, comment vous en êtes-vous venu, en êtes-vous venu à vous intéresser à ATTAC, d'abord par du fait de la surprise au fond de cette association qui a réussi finalement en quelques mois à avoir une audience assez considérable, à être à la fois largement traitée par les médias, mais pas seulement, c'est-à-dire à avoir aussi une assise en termes de militants, de gens qui assistaient aux réunions proposées par l'association.
Oui, tout à fait, merci beaucoup déjà de me recevoir pour discuter de ce livre. Je me suis intéressé à ATTAC au début de l'année 1999. Donc l'association a été officiellement créée depuis 6 mois, puisque l'Assemblée Générale Constitutive datait de début juin 1998. En réalité, le processus de mise en route de ce projet date d'un an auparavant. Je m'y suis intéressé parce que, en tant qu'à l'époque lecteur du monde diplomatique, j'ai eu le sentiment que se créait là quelque chose de potentiellement novateur, qui associait des acteurs très différents différents, qui avaient des cultures organisationnelles et politiques très différentes. Et je me suis dit, allons voir ce que ça peut donner, même si à l'époque c'était pas encore largement médiatisé comme ça l'est devenu. Et je me suis donc focalisé sur cette association pendant de nombreuses années, puisque j'ai réalisé un doctorat de sociologie sur la question, soutenu en 2004, et que j'ai recontinué à suivre effectivement l'association pour la rédaction de ce livre. Donc en tout, ça fait 8 années au contact d'Attac pour suivre son évolution, ses processus délibératifs, ces nouveautés organisationnelles, l'évolution de ces stratégies, et j'essaie de comprendre un peu comment une organisation évolue, naît, se développe, éventuellement entre en crise, éventuellement meurt, en tout cas un peu qu'est-ce que la vie d'une association politique comme Attac.
Christophe Aguiton, vous étiez à l'origine?
Oui, j'étais à la première réunion qui se passait dans les locaux du Monde, c'était rue Claude Bernard à l'époque, parce que le Monde diplomatique était encore à l'époque hébergé par le Monde.
Mais est-ce qu'on trouve le Monde diplomatique? Donc un organe de presse à l'initiative, enfin l'un des initiateurs de cette
On voyait tout ce qui est en train de se passer quelque chose, hein, fin 97, fin, début 98, à la fois, bon ça c'est l'intuition d'Ignacio Ramonet, après la crise asiatique qui avait été vécue comme le premier signal d'alarme dans une décennie qui était celle de la nouvelle économie, de la grande reprise américaine. Donc là on se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui collait pas très bien, en particulier sur le plan financier, d'où la taxe Tobin. Et puis derrière ça, il y avait eu l'insurrection zapatiste, il y avait eu 95, il y avait eu les marches européennes contre le chômage. Il y avait eu toute une série d'événements un peu atypiques sur les luttes sociales, parce qu'il y avait des grèves. Bon, ça, 95, c'est plus classique, parce qu'on en a connu d'autres. Mais les apathies, c'était très étonnant, cette insurrection qui se transformait en un mouvement de contestation non violente. Les marches européennes, c'est la première fois que dans l'espace européen, des mouvements, là aussi, associatifs et syndicaux, se mettaient en réseau pour construire une mobilisation européenne. Donc, on sentait tous qu'il se passait quelque chose. Et c'est en effet le Monde diplomatique qui a réuni autour de la table une espèce de cercle d'associations, de syndicats, puisqu'on a retrouvé la FSU, les Sud, le groupe des 10, enfin Solidaires, beaucoup de syndicats CGT, hein, puisqu'il y avait le soutien de la Confédération, à l'époque des fédérations CFDT, qui ont en général quitté la CFDT un peu plus tard, mais qui à l'époque étaient encore CFDT, et puis les individus, hein, puisqu'il y avait Daniel Mitterrand, il y avait Gisèle Halimi, il y avait toute une série de personnes de ce type, il y avait Bernard Passet, les gens de ce type,
Suzanne George,
évidemment, qui elle était encore au nom d'un mouvement à l'époque, enfin qui aurait pu y être à titre individuel, bien sûr.
Oui, c'est dans ma première partie, j'essaye de montrer l'articulation de ces différents facteurs, effectivement, un contexte de lutte sociale 10 ans auparavant, à la fois en France et au niveau international, qui ont permis que plusieurs types d'acteurs se rencontrent et collaborent de plus en plus régulièrement. Je pense notamment à des associations, des mouvements associatifs et des syndicats qui, pendant longtemps, peut-être collaboraient peu ou très ponctuellement et qui, progressivement, notamment avec la constitution d'AC, par exemple, en 93, ont commencé à non pas seulement discuter sur certains sujets, mais à vraiment à collaborer de façon pérenne. Donc il y a ce facteur-là des luttes sociales. Il y a effectivement la crise financière asiatique, hein, qui a été un élément déclencheur important et qui a aussi donné un poids à Attac qui s'est focalisé initialement exclusivement sur la taxe Tobin ou les paradis fiscaux, ou en tout cas une dimension financière vraiment très très marquée. Et puis il y a effectivement le rôle important du Monde diplomatique qui a un peu était l'orchestre de tout ça et qui a fait le choix stratégique important et à mon avis essentiel de réunir autour de la table des acteurs très différents, individuels, effectivement des personnalités et des organisations qui avaient des trajectoires, des passés, des cultures politiques et des modes d'organisation également différents. Donc on voit que ce pari initial va avoir un poids et très important par la suite, puisque comment vont évoluer ces différents acteurs ensemble sur une dizaine d'années, sachant que les enjeux évoluent, les stratégies évoluent aussi.
On va revenir sur ce pari du Monde diplomatique dont vous parliez, qui est une forme nouvelle d'entrepreneuriat politique, au fond, qui est intéressante et qui produira des effets pour le journal pendant assez longtemps avant de s'estomper. Mais je voudrais, Éric Agricoliorski, qu'on revienne sur ces facteurs, en quelque sorte, qui auraient préparé le terrain de la naissance d'Attac. C'est vrai qu'on peut remarquer, à partir de la fin des années 80, début des années 90, l'émergence de nouveaux types de mobilisation politique autour des sangs en particulier. D'ailleurs, de façon concomitante, un certain nombre de travaux de sociologie politique s'y intéressent, essayent de voir la forme, la nature de ces mobilisations, souvent des populations assez peu prises en charge. On peut penser aux chômeurs assez peu pris en charge par les syndicats, mais aussi aux sans-logement, aux sans-papiers, enfin différents types de mobilisation un petit peu nouvelles surgissent. Ça, c'est un premier facteur. Et puis, le deuxième sur lequel pointait Raphaël Vintrobert, qui est au fond, finalement, la prise en en connaissance, la prise en compte et la connaissance tardive de la transformation profonde du capitalisme financier. C'est-à-dire qu'il faut attendre, au fond, on pourrait presque prendre la date de la publication du livre de F. Chiapello et Luc Boltanski comme un marqueur. Il faut attendre les années 90 pour véritablement, aussi avec des travaux d'économistes, vraiment se mesurer tout ce qui a pu changer. Et là, il y a peut-être une prise en compte de la mondialisation, au fond, de ce qui est devenu une idée très, très commune et un peu fourre-tout, mais qui, à l'époque, apparaît vraiment nouvelle.
Alors, il y a effectivement plusieurs facteurs qui entrent en compte. Enfin, il me semble que si on se place à la fin des années 90, on a une coalition de gens qui ont des traits communs, malgré leurs grandes différences que vous avez rappelées, d'être des relativement minoritaires dans leur champ d'action respectif. C'est plutôt des syndicats minoritaires, c'est Sud, ou c'est des fractions minoritaires de la CGT. Ce sont des militants d'extrême gauche qui sortent d'une phase de relative apathie et d'inaction, même si le climat est à l'éclosion et à la réclosion des luttes. Des mouvements de sang qui s'occupent de populations très marginales et qui sont difficiles à défendre, disons. La Confédération paysanne, qui est un syndicat paysan très minoritaire, hein, et donc qui sont des mouvements assez radicaux, activistes, et qui sont en même temps dans une impasse de débouchés politiques, à la fois portés par une conjoncture de mobilisation, mais en même temps sans réel débouché politique. Et effectivement, la question de l'international, de la mondialisation, internationaliser les luttes, rencontrer d'autres acteurs internationaux, d'autres syndicats européens, rentrer dans des conjonctures d'alliance avec des acteurs internationaux, tout ça va faire que ce thème de la mondialisation va à un moment donné prendre, hein, être un élément de cristallisation d'un ensemble très épars de mouvements qui vont se rencontrer, qui vont trouver à court terme un intérêt stratégique commun à agir ensemble, et puis en même temps être portés par cette vague de la mondialisation. Mais en même temps, on voit aussi tous les problèmes que pose cette alliance finalement très conjoncturelle et cette cristallisation sur ce thème-là, puisque dès le départ, c'est une coalition très hétéroclite réunit des gens qui ont des points communs, mais qui surtout ont énormément de différences sur les manières, sur les thèmes sur lesquels ils agissent, sur leurs référents idéologiques et sur les manières d'agir ensemble. Et effectivement, ça va poser dès le départ un problème de structuration de ce mouvement qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui et qui est un des thèmes centraux du livre.
Oui, moi j'ai envie de poser la question, même avant d'en arriver à la question de la crise à proprement parler. C'est vrai que le caractère hétéroclite de l'association saute immédiatement aux yeux quand on regarde la dimension internationale. Évidemment, 1998, on n'a pas attendu cette date pour voir le clivage autour de l'Europe surgir. On est déjà un certain nombre d'années après le référendum sur le traité de Maastricht. Il y a déjà à l'intérieur de la gauche un clivage fort entre des gens qui sont sur une position qu'on qualifie de souverainiste et qu'on trouve aussi bien à droite qu'à gauche et qui sont plutôt dans une attitude de repli national et qui correspond aussi à une tradition politique plutôt nationaliste à gauche et proche du Parti communiste à certains égards pour certains d'entre eux ou du Parti socialiste, et puis d'autres qui sont dans une autre tradition de gauche plus internationaliste dont j'imagine vous vous sentez plus proche, Christophe Aguiton. C'est pas hasard si vous êtes occupé des questions internationales dans cette association et qui finalement aborde la question de la mondialisation sous un autre regard, plutôt sur l'idée d'une internationalisation des luttes, plutôt que l'idée peut-être d'un repli sur soi. On a l'impression que cette tension-là, elle est dès le départ présente. À la fois, elle forge l'identité de l'association et en même temps, elle est une sorte de non-dit qui peut-être la conduira à la crise à laquelle on va arriver.
À l'époque, ça ne pose pas trop de problèmes pour une raison là qu'il faut resituer dans le contexte, c'est que nous sommes encore dans ce qu'on a appelé à l'époque la pensée unique, hein, ou qu'on appelait sur le plan international le consensus de Washington, qui était ces règles que le Financial Times avait simplement décrites, hein, et qui définissaient de fait l'espèce de credo commun des puissances occidentales et de la plupart des élites des pays du Sud. Et cette pensée unique en France a trouvé une résistance très forte dans l'après 95, des mouvements sociaux avec toute leur diversité, hein, comme ça a été dit, mais aussi, ça on l'a pas encore pointé, chez nombreux jeunes intellectuels qui étaient souvent non organisés, qui s'étaient éveillés à l'action politique après la grève de 95, en particulier derrière les appels que Bourdieu avait lancés et qui étaient des lecteurs du monde diplomatique, hein, pour beaucoup d'entre eux, et qui étaient particulièrement excédés par le poids de cette pensée unique, hein. C'est quand c'est l'époque où Alain Minc publie La mondialisation heureuse, on a toute une série de livres qui portent ces titres qui sont quand même très étonnants aujourd'hui, et qui expliquent aussi pourquoi l'alliance était d'autant plus facile que ce qu'il fallait abattre était quelque chose qui se présentait avec la force de la scientificité, avec la force de l'évidence, avec le soutien des élites intellectuelles, en tout cas de la plupart d'entre elles, hein. Je citais Bourdieu comme contre-exemple, de la presse pour l'essentiel de ces grands organes, et donc face à ça, avoir une espèce d'alliance de gens qui allaient des Verts à des internationalistes de mon type, mais il y en avait évidemment d'autres, à des gens qui sont plus nationalistes comme Bernard Cassin, qui est dans une tradition plus chevènementiste, hein, sur le plan intellectuel, comme une partie du monde diplomatique, tout ça à cette époque n'a pas posé problème. Hein, bon. Et ça explique aussi, mais on y reviendra peut-être, pourquoi la façon dont l'association se construit est assez particulière. Hein. Il y a un caractère atypique de la construction d'attaque quand on le compare à ce qui s'est fait un peu avant dans le champ français, mais surtout à ce qui se fera dans le mouvement altermondialiste international. On est dans un mouvement altermondialiste qui fonctionne sur le réseau, sur la structure horizontale, sur le refus de la délégation, sur le refus des prises de parole qui s'expriment en permanence au nom d'eux, hein, avec l'idée que chacun exprime un point de vue et c'est tout. Et en France, on avait connu une construction un peu comparable à ça avec Agir ensemble contre le chômage en 1993, qui était aussi une espèce d'amas un peu bizarre entre des militants de base, des intellectuels, Bourdieu à nouveau, et puis des structures, un peu celles qu'on va retrouver dans Attaque, hein, pour beaucoup d'entre elles, mais qui était vraiment un réseau horizontal. Avec Attaque, on va avoir ça. Mais on va avoir une structure aussi qui va reprendre du monde diplomatique son côté beaucoup plus vertical, avec des choses étonnantes, même quand on le reprend avec un peu de recul. Hein, bon, un président, des vice-présidents, des secrétaires généraux, on va avoir un conseil scientifique. Hein, est-ce qu'on fait vraiment de la science quand on est dans l'attaque, alors qu'on fait de la politique, on défend des idées, on peut le faire de façon sérieuse, de façon argumentée, mais est-ce que tout ça relève de la science? Avec un peu de recul, c'est évident qu'il y avait une volonté très forte de durcir et le propos et la structure face à la pensée unique, et ça collait bien à l'époque.
Alors justement, venons-en à cette question du choix organisationnel et cette nature très très spécifique d'attaque. Conseil scientifique, au fond, est-ce que ça s'expliquait pas par une indétermination quant à la mission de l'association qui était à la fois think tank d'un côté, ce qui aurait pu correspondre avec l'idée d'un conseil scientifique où il s'agissait de produire de la contre-expertise validée par des experts et pas uniquement par des militants, et puis d'un autre côté, pas que ça, c'est-à-dire l'idée aussi de faire, peut-être pas dès le départ, ça je sais pas, c'est-à-dire que c'est peut-être le succès aidant, le nombre d'adhérents grimpant, finalement une association qui pèse parce qu'elle représente quand même un nombre assez considérable de gens engagés.
Je crois que vous avez tout à fait raison de souligner cette évolution, parce que c'est à mon sens une vraie évolution. Quand je me suis repenché dans les archives, dans les notes personnelles que les premiers participants ont bien voulu me donner dans les premières réunions, on voit que le projet initial d'attaque était effectivement l'idée de faire une association très ciblée sur les thématiques financières et économiques, avec une élaboration d'écrits et d'une pensée et une diffusion de ces écrits. Et donc c'est vraiment l'idée d'une contre-expertise qui était d'abord l'idée première.
Il y avait une contre-fondation Saint-Simon, quelque chose comme ça.
Ça n'a pas été à ma connaissance exprimé comme ça, mais il y avait l'idée effectivement d'être un lieu d'élaboration d'une pensée collective et de mettre à disposition du grand public, d'où l'importance des journaux, qui ont été à mon avis très importants et qui ont été les premiers membres fondateurs, le Monde diplomatique et évidemment un organe de presse. Et c'est en premier lieu adressé à d'autres types de presse dont il était très proche, y compris économiquement. Donc il y avait vraiment cette idée-là, et l'idée du conseil scientifique est venue donc assez rapidement dans cette optique-là. Et vous avez raison, c'est à la suite du développement exponentiel qui a été anticipé par personne, enfin Christophe Aguiton pourra développer ce point, ce succès n'avait pas été prévu, et là ça a bouleversé, c'est ce que j'essaye de montrer, ça a bouleversé effectivement la dimension même d'attaque qui a élargi ces différents champs d'action.
Christophe Aguiton, juste sur ce point, je vous prends la parole.
Il y a eu deux évolutions très importantes. La première n'a pas posé problème. C'est le fait qu'on passe de la taxe Tobin à un champ plus large. Hein, ça a correspondu à un moment où, en Europe et dans le monde, en fait, Seattle a changé la donne. Mais on y reviendra tout à l'heure, parce que en 2002, donc beaucoup plus tard, la crise viendra aussi de ce tournant. Mais sur le plan organisationnel, je me rappelle bien de toutes ces premières réunions, on était sur un modèle qui était plutôt celui des Amis du Monde Diplomatique, hein, qui est donc une association qui est assez influente, hein, qui tient des réunions dans beaucoup de villes de France d'ailleurs, hein, parce qu'il y a beaucoup de cercles d'amis à l'extérieur de nos frontières, mais qui a une fonction de diffusion d'idées. Hein, et ça s'est reflété sur un débat qui a été très important au début, mais qui a été tranché de façon quasi unanime, c'est un statut spécifique ou pas pour les groupes locaux. Et en fait, on a tous convenu qu'il y aurait probablement très peu de groupes locaux, sauf pour organiser des conférences, hein, bon, et que donc un statut d'association nationale allait bien. Hein, alors qu'à l'évidence, et ça a posé un problème en permanence, l'éclosion des groupes locaux a changé la donne. Mais ça, c'était absolument pas prévu, et je dois dire de façon très homogène, hein, il n'y avait pas là-dessus de désaccord profond.
Juste pour dire une chose, c'est-à-dire qu'ATTAC au départ est quand même un rassemblement d'intellectuels, et les intellectuels, lorsqu'ils se rassemblent, qu'est-ce qu'ils font? Ils réfléchissent ensemble, ils font un conseil scientifique, et ils essaient ensuite éventuellement de diffuser leurs idées pour faire de l'éducation populaire. S'agissant de la mondialisation, il y a aussi cette idée très ancrée chez les militants d'ATTAC et les dirigeants d'ATTAC, si on révèle les mécanismes de la mondialisation, elle va se dissoudre, en tout cas elle sera plus contrôlable. Il y a cette croyance très forte dans la science, et en particulier dans les pouvoirs libérateurs de cette science, exactement.
Raphaël Vintrebert, donc, sur l'aspect organisationnel, peut-être aussi sur ces comités locaux, parce que c'est vrai que du coup, le succès va se traduire par la constitution d'attaques départementaux, avec le numéro du département derrière, et en fait, ce qu'avait prévu, et ce que vient de nous rappeler Christophe Aguiton, les fondateurs, et ne se produira pas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un succès, je sais pas comment ça se passe très très vite, en quelques mois.
Alors, deux choses. Je voulais revenir sur un comparatif qu'on peut faire entre attaques et ce qui est devenu la Fondation Copernic, qui sont deux initiatives qui se créent à peu près à la même période, notamment à l'initiative de quelqu'un, Jacques Kergoat, qui était au début plus ou moins partie prenante d'ATTAC également, et on voit que les deux associations sont devenues se sont dirigées vers des orientations très différentes, mais rien n'était écrit. Ça aurait pu être l'inverse peut-être, et la Fondation Copernic est restée sur un domaine d'expertise avec
et
beaucoup
surtout,
d'experts.
Si je peux vous couper, la Fondation Copernic avait un champ français.
Et un champ français, tout à fait.
Le succès d'ATTAC s'explique aussi par sa rentrée en phase avec le mouvement altermondialiste mondial.
Alors le deuxième point, je voulais réagir par rapport aux amis du monde diplomatique. L'influence, il y a une double influence, c'est aussi dans la structure organisationnelle, qui était de prévoir un collège des fondateurs sur le même modèle que les Amis du Monde Diplomatique, l'idée étant, pour les Amis du Monde Diplomatique, d'avoir une instance qui permette de contrôler encore la ligne rédactionnelle du journal. Et donc, Bernard Cassen a eu cette idée très claire de transposer ça pour ATTAC et de faire un collège des fondateurs qui réunit des organisations et des personnalités qui auraient un poids déterminant et un pouvoir déterminant en termes de siège au sein du conseil d'administration. Donc ça va être très important dans les équilibres politiques qui vont évoluer progressivement. Et effectivement, donc ce qui n'a pas été prévu, c'est l'adhésion massive des adhérents, puisqu'au bout de 6 mois, 5 000 adhérents, au bout de 1 an, 10 000, au bout de 2 ans, 20 000, et au bout de 3 ans, 30 000. Voilà. Bon, après, ça se stabilise, ça descend.
C'est-à-dire beaucoup plus que nombre de partis politiques.
Beaucoup plus que nombre de partis politiques. Et là, il a fallu gérer cette croissance-là, il a fallu s'organiser localement. Quelle forme cela peut-il prendre? Des associations de fait ou déclarées comme loi 1901? Et après, la grande interrogation, c'est quelle est l'articulation entre ce niveau local qui est en train de se développer et le national, qui a une existence statutaire et un poids de fait dans l'organisation.
Christophe Guiton, je vais encore vous prendre comme un témoin historique et aussi avec une attitude réflexive évidemment par rapport à ça. Mais comment vous avez réagi face à ce succès? Est-ce que du coup des interrogations sont nées sur les missions, les objectifs de l'association? Puisque là, visiblement, la question se pose. Est-ce qu'on peut encore être simplement intéressé à la diffusion d'idées, ou est-ce que du même coup, on se dit qu'on peut peser politiquement et d'autres agendas se mettent à apparaître?
Non, pas à cette époque-là, parce qu'il faut là aussi revenir au contexte de l'époque. La naissance d'ATTAC, c'est en effet juin 98, même si les premières réunions, c'est janvier-février, hein, donc début 98. Mais l'année 99 est une année d'accélération très forte, et puis surtout, c'est Seattle à la fin de l'année 99, hein, fin novembre, début décembre 99. Et là, tout change. Parce qu'un mouvement qui était quand même très français, coréen, un peu brésilien, on le saura plus tard, nord-américain au sens États-Unis du terme, devient mondial. Et surtout, on s'aperçoit qu'il est mondial, et partout surgit des équivalents d'attaque qui s'appellent appelleront parfois Attaque. Attaque est très fort en Allemagne. On vient de le voir au contre G8 où c'est Attaque qui a été la force dominante des altermondialistes allemands. Très fort en Europe du Nord, en Scandinavie, en Finlande. Très fort en Autriche, en Suisse et en Belgique. Bon, mais ailleurs, c'est pas Attaque. Hein. Et on voit des mouvements comparables à Attaque surgir tout de suite après Seattle. En Angleterre, ça va être Globalized Resistance avec un poids très fort du SWP, cette organisation d'origine trotskiste qui pèse un poids important, y compris maintenant sur le plan électoral. En Espagne, dans un contexte plus mouvementiste, plus horizontal, marqué par les traditions libertaires, c'est le Movimiento de Resistencia Global. En Italie et en Grèce, ça va être les forums sociaux, donc à l'image de Porto Alegre, grec et italien, qui vont se structurer, mais comme des mouvements militants, et pas simplement comme des lieux de rencontre. Et on va avoir dans toute l'Europe, je ne vais pas faire le suivi du reste du monde, ce serait fastidieux, on va avoir dans toute l'Europe des mouvements en fait assez comparables, qui vont se coordonner très vite, qui vont se mettre à agir ensemble très vite, et ça va être la série de ces grands rendez-vous qui vont rythmer notre activité. Alors évidemment en phase avec les comités locaux. Hein, bon, et en effet, comme le disait Raphaël, l'articulation locale et nationale n'est pas facile. Ça, c'est une des choses les plus difficiles. Mais ce qui se fait très naturellement, c'est le changement d'échelle. C'est-à-dire on passe de la France, même si on a déjà des connexions internationales, au monde, en passant par l'Europe. Et puis surtout, comme je le disais tout à l'heure, le fait qu'on s'intéresse à tout, et pas simplement à la taxe Tobin. Et tout ça va être rythmé dans quelque chose où on passe de la réflexion, de la publication. Attaque va publier très vite des petits livres hein, qui vont être comme des brochures d'éducation qui vont se diffusés très largement, hein, vendus pas cher et qui vont jouer un rôle très important. Des conférences de débat, Suzanne Georges va exceller dans ce genre de conférences où elle va parcourir la France. Et puis les grands rendez-vous, hein, ça sera Prague, septembre 2000, ce sera Porto Alegre, ce sera Nice en décembre 2000, ce sera par la suite surtout Gênes hein, en juillet 2001, qui va marquer un choc tout à fait considérable, tant par l'ampleur de la répression que par le nombre de gens, hein, 300 000, on change d'échelle, hein, à Seattle il y avait 30 000 personnes dans la rue, à Gênes il y en a 300 000, il faut plus. Et derrière on voit un mouvement donc démarrer sur les chapeaux de roue, et l'agenda d'Attaque va être le suivi de tout ça, en même temps de cette activité intellectuelle de diffusion d'idées, de réunions publiques.
Éric Agricole-Jansky, comment on regarde cette organisation se créer quand on a l'habitude d'observer la forme parti, la forme syndicat
Alors, c'est une forme effectivement qui, comme le dit Raphaël Vintrevert dans son livre, ne ressemble pas à grand chose en réalité. Au début, c'est quelque chose qui est ni vraiment un parti, qui n'a pas une structure pyramidale, qui n'est pas une fédération non plus. Il y a des adhérents individuels, des organisations, des choses qui sont assez étranges, qui en même temps ne sont pas si radicalement nouvelles qu'on le pense. C'est-à-dire que c'est une forme d'organisation qui, de simili-fédération de groupes relativement homogènes mais qui coopèrent, qui est assez habituel depuis le début des années 70, depuis les années 60 en fait, des formes de cristallisation de mouvements sociaux autour d'objectifs assez précis. C'est pas radicalement nouveau, les théoriciens des nouveaux mouvements sociaux qui commentent les mouvements apparaissant dans les années 60-70 en Europe, aux États-Unis décrivent ça très bien. Donc c'est pas une forme qui est complètement nouvelle, mais là c'est une forme qui est très bien adaptée justement à la gestion de l'hétérogénéité de cette organisation, c'est-à-dire qui va permettre à des acteurs très différents d'agir ensemble, tout en ayant d'une manière assez fonctionnelle des règles démocratiques qui permettent d'être engagés sans réellement s'engager. C'est-à-dire que, par exemple, les formes de règles autour du consensus, alors qui sont formalisées de manière relativement différente, permettent en fait aux organisations d'avoir des formes de veto ou de blocage, de décisions auxquelles elles ne peuvent pas... si elles n'adhèrent pas à ces décisions-là, les décisions ne sont pas prises. Donc ça permet des acteurs importants de peser d'un point déterminant sur une organisation, alors même que si on avait des règles de vote traditionnelles ou des règles d'organisation telles qu'on les a au sein des partis où il y a des minorités et des majorités, ça se passerait pas du tout comme ça et où faire le lien entre ces différences-là serait pas possible. Donc ces règles-là démocratiques sont très liées à cette exigence de gestion de la diversité.
Raphaël Vintrevert, l'un des modes particuliers d'articulation entre le niveau local et le niveau national, et puis aussi qui a consisté l'essentiel de l'activité au fond des membres d'Attaque, ça a été de participer à des débats, d'où cette idée de démocratie participative. Alors peut-être ça c'est l'une des traces d'Attaque dans la campagne électorale dont je parlais en introduction de l'émission, même si elle est indirecte. Au fond, ça a été de mettre en œuvre ces conférences, d'y associer un certain nombre de militants. Comment ça a été, est-ce que ça a été un peu théorisé, ou est-ce que c'est le résultat de pratiques relativement informelles?
Non, je crois que ça n'a pas été théorisé parce que les principaux dirigeants à l'époque étaient submergés de demandes, de choses à faire. Donc, ils ont finalement laissé aux comités locaux qui se mettaient en place une très grande liberté d'action et de manœuvre, pour peu qu'ils respectent des grands principes de la charte statutaire de l'association. Donc, on observe vraiment, il y a eu au maximum 240 comités locaux dans l'attaque, et on observait une diversité très très importante parmi ces comités, certains se spécialisant sur une thématique, je pense aux paradis fiscaux par exemple, d'autres étant plutôt généralistes. Chacun avait la forme qu'il souhaitait avoir et développait beaucoup de débats. Mais en effet, pris collectivement, on a vraiment assisté à ce qu'ils ont appelé un mouvement d'éducation populaire tournée vers l'action. La phrase a été proposée par Bernard Cassen à peu près vers 2000-2001, et l'idée était vraiment de sensibiliser au maximum les citoyens via des rencontres, des conférences, et on a vu le résultat de ce travail-là à l'occasion du traité constitutionnel européen, où il y a eu un travail de terrain très important fait par l'ensemble des forces sociales à l'époque, notamment ATTAC, qui avait quand même encore une fois, par son organisation, par le nombre de militants, une force de frappe, on va dire, très très importante.
Christophe Aguiton.
Non, tout ça est vrai. Moi, j'aurais voulu revenir sur un aspect sur le plan de l'extension internationale d'attaque, à la fois du mouvement attaque qui est important, mais surtout toujours de ce basculement de Seattle. Avant Seattle, les mouvements qui existent et qui contestent la mondialisation libérale sont monothématiques. C'est-à-dire qu'on voit des campagnes se développer dans le monde entier. Celle sur la dette prendra un poids très important. C'était Jubilé 2000, hein, c'est la préparation du Jubilé chrétien qui était l'occasion de se débarrasser des chaînes et de l'esclavage de la dette. 50 Years Enough, c'était contre les 50 ans de la Banque mondiale et du FMI. Et un peu la taxe Tobin pour le début de l'attaque. Et puis, à partir de 99, on va voir émerger la demande de mouvements globaux. Et attaque sera ça. Bon, et on aura dans toute l'Europe, et la France en sera une des expressions, des mouvements qui vont avoir le monopole, en fait, du rejet, de la contestation de la mondialisation libérale. Et cette période-là, qui commence vraiment à Seattle, un peu avant, disons, 1999, va se clôturer autour de 2002-2003, autour des forums sociaux de Florence et de Paris, avec l'apparition de nouveaux acteurs, avec des luttes qui seront beaucoup plus massives, puisqu'on passera de ces élites qui se mobilisent à Seattle, hein. Il y a cet article célèbre du mouvement américain qui disait « Where was the color in Seattle ?» Où était la couleur ? Parce que Seattle, c'était des étudiants blancs d'un certain niveau social, il n'y avait pas de Chicanos, il n'y avait pas de Noirs ou très peu, et on a un peu la même chose à Prague, et Gênes commence à être un tournant en 2001, et puis à partir de 2001, c'est l'explosion, hein, au sens où on a une succession de luttes très importantes. En France, ça va être 2003 avec les luttes sur les retraites, en Italie, ça va être sur l'article 18, ça va être des mouvements environnementalistes en Catalogne sur le détournement des eaux de l'Ebre. On va avoir une ébullition dans toute l'Europe pour en rester à ce champ-là. Et à ce moment-là, le rôle de ces mouvements historiques, hein, attaque en France et tous les mouvements comparables dans les autres pays, va se trouver posé. Parce que tant qu'on a le monopole, tout est facile. Et là, on en arrive un peu à la crise d'attaque. C'est que tant qu'on était dans cette situation de monopole, et ça revient à la question que vous nous posiez tout à l'heure, c'est les gens plus souverainistes ou plus internationalistes, les gens plus radicaux et plus modérés, les gens de culture plutôt verte et celles de culture plutôt communiste, tout ça cohabitait facilement tant qu'on était dans un cadre où attaque avait le monopole de la contestation et avait contre lui surtout la pensée unique. Hein, tout ça va basculer entre 2002 et 2003.
Mais est-ce qu'il n'y a aussi pas une question d'identité et de nature de l'organisation, Éric Agricolianski, dès lors qu'attaque devient, comme le disait Christophe Aguiton, une association globale qui ne milite pas pour une seule cause, et donc du même coup, quelle différence entre attaque et un parti politique? La question se pose peut-être avec plus d'acuité qu'au début de l'association.
Oui, par la force militante, effectivement, la question se pose, quel débouché politique? Alors, les limites sont assez évidentes, attaque ne présente pas de candidat et ne concourt pas pour la conquête du pouvoir, mais vise davantage à influencer les agendas publics ou à peser sur
la question. La question a pu se poser à certains moments sur des élections européennes en particulier.
Oui, il y a une tentative de Bernard Cassin et quelques autres de créer quelque chose qui s'appelait Élise 100% altermondialiste en 2004, mais qui a vite avorté. L'association s'est révélée très contre ça parce que ça dénaturait le sens même de son combat, et puis l'écho n'a pas remporté le succès escompté, donc la parenthèse a été assez courte heureusement, mais en effet c'était un mouvement qui cherchait plus à influencer qu'à se présenter aux élections.
En revanche, la campagne sur le traité constitutionnel européen était une excellente occasion, enfin un excellent débouché politique pour attaque, parce que c'était l'occasion rêvée d'intervenir en politique sans faire de la politique au sens de la politique des partis ou de l'élection, donc de peser sur le débat public, d'animer une sorte de lieu neutre qui anime la réflexion politique de la gauche Sur l'international, juste pour revenir sur ce que disait Christophe, j'ai un petit peu plus de réserve sur cette globalisation soudaine des luttes. Je pense que les mouvements altermondialistes sont nés, sont développés dans des cadres qui sont fortement nationaux, comme le montre très bien le cas d'attaque en France et l'ouvrage de Raphaël, on voit bien que c'est la conjoncture d'un contexte politique très spécifique qui fait le mouvement altermondialiste et que les grandes manifestations altermondialistes sont pas de si grandes manifestations internationales. À Seattle, c'est 30 000 personnes, ce qui est finalement assez peu. C'est une petite, disons, manifestation parisienne. Et que les grands mouvements qui vont se développer ensuite vont surtout compter sur des forces nationales. Si c'est en Italie, Florence, Gênes en 2001, c'est parce que à ce moment-là, il y a un mouvement social très fort en Italie. Si en 2003, en France, ça marche bien aussi, c'est parce qu'il y a un mouvement social en France qui est très développé. En revanche, tout le travail politique effectivement fait par Attaque et les militants altermondialistes va être d'essayer de connecter des luttes nationales avec des problèmes spécifiques à des enjeux globaux. Alors là, qui est vraiment un travail de montée en généralité et qui va être interprété différemment à l'intérieur d'Attaque, avec des gens qui sont pour créer une nouvelle internationale, des mouvements sociaux, et puis d'autres qui utilisent les enjeux internationaux dans l'espace politique national, mais qui veulent rester dans cet espace politique international.
Oui, parce qu'on a pu adresser cette critique parfois à Attaque d'avoir, au fond, détourné même une génération politique de jeunes militants des enjeux nationaux en leur faisant miroiter les formidables manifestations qu'on pouvait aller faire à l'étranger, et au fond, en se désintéressant des luttes nationales. C'est-à-dire qu'il y a eu une forme de déplacement du regard. Au fond, à un moment donné, c'était très, très à la mode, le mouvement altermondialiste, et finalement, c'était la façon la plus à la mode de faire de la politique. Enfin, je parle là de socialisation politique des plus jeunes. Et du même coup, est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte de déplacement du regard et de l'action du cadre national vers ces grands rendez-vous dont vous parliez tout à l'heure?
Moi, je pense tout à fait, mais je ne pense pas que ce soit en soi négatif. Et contrairement à Eric Agnolensky, je ne pense pas que...
pas un jugement de valeur, question.
Que le cadre national détermine absolument tout. Il y a deux choses qui sont intéressantes dans le mouvement altermondialiste. La première, qui est tout à fait similaire à 68, c'est un point de départ qui se généralise comme une déflagration. Bon, et Seattle a été une déflagration. La France avait connu avant 99 des mouvements sociaux. Le point a été fait tout à l'heure, les luttes des sangs, les sans-papiers, 95, toute une série de choses très importantes, évidemment. En Europe, c'était un peu calme plat. Or, on va voir arriver après 99 des luttes partout. Hein, et un mouvement qui, dans la jeunesse, alors que là aussi la jeunesse n'était pas à l'avant-garde des luttes dans les années 80-90, partout on va voir une nouvelle génération, dont la dernière manifestation, si vous avez vu les télévision ces derniers jours, c'est Rostock en Allemagne, où c'est des jeunes de 18-20 ans qui étaient dans la rue. Donc on a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la déflagration à la 68, toute chose étant égale par ailleurs, je vais évidemment pas faire d'analogie trop rapide, mais avec une différence majeure, c'est que le degré d'interconnexion, et ça c'est ce que Sylvain, bon, vous venez de dire, entre les mobilisations, que moi je milite depuis 1970, je n'avais jamais connu. Hein, bon, quand on a connu 95 en France, on savait vaguement qu'il y avait des Allemands, quand il y avait un mouvement de chômeurs en 98, on était contacté des Allemands, c'était un peu terre d'aventure et on débarquait dans des terrains tout à fait inconnus. Là, les acteurs se connaissent, les forums sociaux sont le cadre par lequel ils se rencontrent, tissent des liens. Alors après, moi là où je vous rejoins évidemment Eric, c'est que dès qu'on passe à des luttes sociales, on se bat contre une proposition de loi, contre un décret gouvernemental, avec des syndicats qui sont dans des cadres nationaux, et donc là évidemment il y a nationalisation des luttes. Et donc là va se poser un problème pour des mouvements comme Attaque, c'est comment garder ce versant international et puis comment travailler avec ces acteurs. Qu'est-ce que sont ces syndicats, quelle est leur relation avec Attaque? Au début, c'était en effet des forces fondatrices, mais après, comment on travaille avec? Quand il y a une grève comme celle de 2003 ou celle sur le CPE de 2006, tout ça vont représenter des défis tout à fait considérables qui vont être une des raisons de la crise d'Attaque de ces dernières années. Mais je ne pense pas qu'on puisse simplement tirer, c'est ma seule remarque, une espèce de trait continu d'inscription dans les cadres nationaux. Il y a des moments où il y a des déflagrations qui sont continentales ou mondiales, et puis il y a un degré d'interconnexion qui est plus fort qu'auparavant.
Oui, je voulais réagir. Je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire, mais je pense qu'on ne parle pas forcément finalement des mêmes militants. Si on prend Attaque, lorsque Attaque comptait 30 000 adhérents, combien participaient régulièrement à des forums sociaux ou à des mobilisations internationales? Indéniablement, la dimension internationale a participé de la dynamique d'Attaque et de l'ensemble du mouvement et de son image. Ça, c'est certain.
Maintenant, si je peux vous donner un chiffre. Je m'occupais à l'époque de ces questions-là. Il y avait 3 000 Français à Porto Alegre aux trois premiers forums. Ça fait 9 000 en tout. Alors, pour partie, c'était les mêmes. Mais c'est beaucoup. Hein. Il y avait 5 à 10 000 Français à Florence en 2002 au Forum Social Européen. Parce que là, c'est plus difficile à compter parce que les gens venaient en voiture ou en train. C'est aussi beaucoup. Alors, c'est pas 30 000, mais c'est quand même une irrigation qui va au-delà des simples spécialistes qui voyagent tout le temps.
Tout à fait. Mais c'était juste pour dire que ça laissait des militants pour faire autre chose au niveau local et au niveau national. Il n'y a pas du tout d'opposition à poser entre l'investissement international et l'investissement national. Il y a eu, pendant cette période où effectivement les grands événements internationaux rythmaient des grandes campagnes d'action d'attaque, mais il y avait simultanément beaucoup d'actions locales et nationales. C'était pas du tout incompatible. On parlait pas tout à fait des mêmes, forcément pas toujours des mêmes acteurs. Je crois que vraiment il faut prendre la mesure de l'effet boule de neige. Je crois qu'Attac n'a pas théorisé son élargissement, n'a pas théorisé son champ d'investigation très large. Ça s'est fait parce que les gens voulaient le faire. Et dans l'action militante, quand il y a des bonnes volontés, des gens qui ont du temps, de l'énergie et des compétences pour aller sur certaines thématiques, personne ne les en empêche. Donc c'est comme ça que ça s'est fait dans Attac, et Attac a été pris. Moi, j'ai été frappé de voir que depuis 99, je ne cessais de voir au Conseil d'administration nationale ou sur des listes de discussion des gens dire « Attention, attention, on va trop loin. Est-ce qu'il faut qu'on aille jusque-là ?» À chaque fois, j'ai eu ce genre d'affirmation, et pourtant, ça se faisait malgré tout, parce que c'était quelque chose qui dépassait tout. Pour peut-être faire le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure, et peut-être lancer une autre question sur la question du débouché politique, qui est évidemment centrale. Vous avez évoqué tout à l'heure le traité constitutionnel européen, qui était un bon cadre pour Attac, qui était à la fois pas complètement dans le champ partisan. C'est vrai, et en même temps, il faut pas se cacher que ça a posé beaucoup de débats et beaucoup de questions dans Attac même. Il était nullement évident que ce pas puisse être franchi. C'était déjà un pas à franchir. Et j'en veux pour preuve que une partie non négligeable d'adhérents n'a pas réadhéré à Attac à la suite de ça. Et de toute évidence, peut-être même bien plus que la crise directionnelle qui s'est développée, ça a été un facteur très important.
On va revenir sur cet épisode du traité constitutionnel européen, mais pour poser directement la question du débouché politique, il y a une question au fond préalable qui me vient à l'esprit, Raphaël Vinterbest, c'est celle de savoir dans quelle mesure, au fond, Attac n'a pas été possible, et en particulier le succès d'Attac, ce phénomène de boule de neige dont vous parliez, rendu possible par la crise politique profonde que traversaient les partis. C'est-à-dire qu'à la fois, on pouvait faire le constat d'une envie de politique, d'une envie d'engagement de la part d'un certain nombre de gens qui, j'imagine, possèdent des caractéristiques sociales particulières et pas très surprenantes pour qui connaît un petit peu le profil des gens qui s'engagent en politique, mais qui, malgré tout, depuis un certain nombre d'années, ou jamais pour les plus jeunes, mais ne trouvait pas véritablement les lieux où faire de la politique, et Attac est venu finalement fleurir sur la crise des partis. Alors soit le Parti communiste en pleine décomposition organisationnelle aussi, mais aussi un Parti socialiste plus occupé au fond à parfaire sa culture de gouvernement qu'à organiser sur le terrain le débat avec ses militants. Et puis je pense qu'on peut faire peut-être d'abord ce constat-là. Est-ce que j'exagère ou est-ce que une situation de ce type qui bénéficie considérablement à un projet comme celui d'Attac?
Attac a constitué une nouvelle offre politique donc à la fin des années 90, et ça explique en grande partie son succès. On dispose malheureusement pas d'une enquête précise sur les motivations des adhérents de l'époque. On pourrait le faire maintenant, mais on manquerait peut-être ceux de l'époque. Mais je pense que ça a été très important, et par rapport à deux types d'acteurs, on va dire. Des acteurs qui n'avaient jamais milité justement par défiance à l'égard de tout système partidaire, on va dire, ou même syndical, un autre registre, et qui sont devenus adhérents parce qu'ils ont trouvé dans Attac un autre discours et une autre façon d'organiser les débats. Et puis aussi des anciens militants actifs de différents partis ou de différents syndicats, ou les deux en même temps, qui ont été déçus, qui ont souvent été dans des positions minoritaires ou en sommeil. Ça rejoint ce que disait M. Agricolanski tout à l'heure. Tout comme les organisations fondatrices d'Attac étaient souvent minoritaires dans leur champ d'activité syndicale, par exemple, il y a beaucoup de militants politiques qui étaient minoritaires dans leur organisation, qui ont été fatigués d'être toujours minoritaires et qui se sont réinvestis. Et pourquoi je distingue les deux? Parce que les seconds dont je parle se sont beaucoup investis localement, et ce sont souvent eux qui ont constitué quand même le vivier d'action et d'acteurs. Il faut distinguer les adhérents, voilà, et puis après ceux qui mettent concrètement en œuvre les actions et qui font tourner la boutique, on va dire. Et je pense que au niveau local, beaucoup étaient d'anciens militants de parti déçus qui ont réussi à se réinvestir dans Attac.
Si je me souviens bien, c'est ces conclusions que vous vous aviez, avec l'enquête que vous avez menée...
Oui, sur les participants du Forum Social Européen de Paris de 2003, effectivement, on voyait qu'il y avait quand même une grande proportion de ces militants qui n'étaient pas des novices en politique, qui avaient déjà une expérience antérieure de l'engagement associatif, syndical ou politique. Et effectivement, l'appartenance à ATTAC n'est pas exclusive, enfin au comité local d'ATTAC, n'est pas exclusive d'autres appartenances associatives, syndicales ou partisanes, et que ATTAC a pu constituer localement, mais alors là, on manque un peu de monographie locale, finalement. Enfin, il y en a un certain nombre, mais sur la manière dont l'espace ATTAC va constituer une sorte d'espace de recomposition de la gauche locale, ou des gens qui sont un peu minoritaires dans les différentes organisations, qui vont se retrouver, vont aller au-delà des clivages de chapelles, d'organisations, et puis agir ensemble sur une cause qui, par ailleurs, a l'avantage d'être à la fois nationale et internationale. Enfin, on tente quand même de faire un meilleur monde, donc bon, peu de militants sont en désaccord avec cet objectif là, finalement.
Christophe Guiton, une chose qu'on n'a pas abordée encore, c'était le, parce que les mots sont toujours importants dans ce genre d'initiative et toujours en politique, c'est le passage de anti à alter, de ce point de vue-là. Comment ATTAC s'est situé par rapport à ça? C'est-à-dire que peut-être à un moment donné, l'aspect négatif de l'anti-mondialisation apparaît, et on voit les limites d'une mobilisation à ces termes. Et est-ce que ça recoupe des clivages internes, en particulier ceux qu'on évoquait tout à l'heure à propos d'une posture un petit peu plus repliée sur le cadre national et une posture plus internationaliste?
Pour moi, oui, je pense que le passage à alter, ça vient pas des Français, hein, je le dis toujours parce que c'est une des choses qui m'énerve toujours en France.
Non, mais les Français ont fini par l'accepter.
Voilà, parce qu'on a une police de la langue, et donc toute évolution sémantique, si elle n'est pas passée par l'Académie, n'est pas acceptée. Donc c'est les Belges et les Québécois qui en sont plus libres que nous, qui nous ont fait à reconnaître et donc ont permis la diffusion de ce nouveau terme, qui est tout à fait positif à mon avis, et qui marque, à mon avis, en effet, la victoire. Le terme des internationalistes est un peu trop rapide, mais de ceux qui sont pour une autre mondialisation. La vraie différence, c'est ça. Hein. Bon, ben, plus encore que l'idée d'une radicalité ou d'un découpage face au Black Bloc et aux violences, qui est un débat passé. Hein, parce qu'après Gênes, la massification des mobilisations est telle que la violence diminue, ce qui est tout à fait positif. Mais la clé, c'est en effet anti au sens repli sur l'espace national, ou alter, c'est-à-dire pour une autre mondialisation. Autre mondialisation, après, qui est un champ ouvert, hein, dans lequel on peut avoir des réponses différentes et dans lequel toute une série de débats peuvent s'engouffrer. Mais c'est quand même ça qui est acté par le mot alter, et pour preuve le titre d'un livre dont j'ai oublié, je suis vraiment confus, d'un des membres du conseil scientifique d'ATTAC qui écrit sur l'anti-mondialisation et qui revendique le mot anti-mondialisation. Peut-être que Raphaël se rappelle de son nom, t'es comme moi. Bref, on s'en rappellera d'ici la fin de l'émission, c'est l'âge pour ce qui me concerne en tout cas, qui me fait oublier le nom de cet auteur, et donc qui en effet explique ça très nettement, parce que lui est c'est un cheminementiste d'origine défense de la souveraineté nationale, de l'espace républicain, et qui donc défend l'anti-mondialisation sous cet argument.
En même temps, Raphaël Vintrobert, on a l'impression, pour en venir à l'actualité plus récente et à la crise et au post-traité constitutionnel européen, au fond, que cette mutation, elle n'est jamais vraiment aboutie, en tout cas en ce qui concerne l'espace national. Je ne parle pas là de la participation au sommet international, mais parce que, au fond, on a jamais évoqué l'idée d'une candidature alter-libérale. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'alter-libéralisme, on parle bien d'anti-libéralisme, et la dimension anti, elle rentre par la fenêtre d'une certaine façon. Peut-être est-ce là d'ailleurs une des raisons de l'échec politique de cette candidature anti-libérale qui a peiné à fédérer autour d'elle des gens qui étaient peut-être dans un rapport plus constructif ou plus ambitieux quant à changer la politique plutôt que simplement la refuser. Raphaël Vintrobert.
Là, il faudrait rentrer dans l'examen de l'échec spécifique de la candidature, et je pense qu'il y a 1000 facteurs à prendre en compte, ça paraît compliqué. En revanche, sur cette question, sur cette opposition, vous êtes revenu à plusieurs reprises sur effectivement la dimension nationale versus internationaliste et sur les tensions consubstantielles au projet initial. J'insiste là-dessus. Moi, je pense que ce qui a changé, c'est pas l'apparition de cette tension, parce qu'effectivement, dès le début, il y a eu des tensions de ce type. Vous avez évoqué la question européenne, c'est vrai, mais elle est valable sur la question effectivement plus globalement anti ou alter-mondialiste. Ce qui me semble avoir été en tout cas le succès d'ATTAC, c'était qu'il n'était pas nécessaire de trancher cette question et de fixer des polarités de ce débat qui risquerait de figer des camps et des opposants et des partisans et qui risquerait, à mon avis, à court terme, de faire imploser ou exploser le mouvement. Donc l'idée était de ne pas le poser en ces termes, d'avancer progressivement sur des dossiers spécifiques, de se mettre d'accord au consensus qui a été largement valorisé pendant longtemps, et de ne pas aller trop vite, j'ai envie de dire. Et la question européenne que je traite en partie dans le livre, j'explique que Bernard Cassen a toujours pris garde de ne pas l'aborder n'importe comment et pas à n'importe quel moment. Voilà, il faut trouver le bon moment et la bonne manière pour discuter avec un certain nombre d'acteurs qui ne partagent pas forcément nos convictions politiques. Et je pense que le savoir-faire d'Attaque et de tous ces acteurs, vraiment globalement, qui ont participé à Attaque jusqu'à 2003 au moins, 2002-2003, ça a été ça. Ça a été de savoir comment aborder des questions qui risquent de fâcher et à quel moment. Bon, et après... Là, à mon avis, mon analyse est que la grande différence, c'est que certains ont souhaité trancher des questions qui fâchaient, quitte à se fâcher, de fait, avec un certain nombre d'organisations ou d'acteurs, et de créer un conflit qui n'avait peut-être pas lieu d'être à ce moment-là.
Christophe Guiton, vous vouliez
rebondir sur
votre libéral.
Absolument, parce que vous mettez le doigt sur un vrai problème, mais qui nous fait retomber dans les débats, mais on peut le traiter en quelques minutes en tout cas, qui sont ceux de la gauche actuelle. Parce que je pense qu'en effet, derrière les termes, il y a une vraie difficulté. C'est la capacité du champ politique français, donc des organisations, des mouvements et des partis de gauche en particulier, parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui, à se saisir des questions que le mouvement altermondialiste a mis en avant. Et là, on voit le décalage. Hein. Bon, par exemple, dans le mouvement altermondialiste, attaquer d'autres. Hein. Bon, la façon dont on prend les multinationales, c'est à la fois par des mesures concrètes en France, hein, on ne va pas en faire le détail ici, mais aussi par une mise en cause de leur pôle et de leur poids au niveau mondial, avec la création de contrepoids, de capacité pour les syndicats au niveau international de contracter, hein, ce que le syndicalisme international essaye de faire, avec aussi l'idée qu'on peut rendre les multinationales responsables de leurs actions devant la Cour internationale des droits de l'homme, hein, puisqu'il y a eu un appel fait par de nombreuses ONG pour être devant la Cour internationale des droits de l'homme, pour les rendre responsables des questions environnementales, écologiques ou autres. Bref, il y a toute une série de questions dans lesquelles l'articulation du local, du national et du mondial est bien faite par le mouvement altermondialiste. Hein. On peut en discuter les réponses, mais elle est bien faite. Le passage en politique est difficile. Et c'est vrai pour la partie radicale de la gauche, celle qui s'est retrouvée derrière les candidatures antilibérales, et aussi au Parti Socialiste. Hein, parce que même si Ségolène Royal a beaucoup parlé de démocratie participative, quand on prend le fond du programme que la candidate ou le Parti Socialiste a exprimé, on s'aperçoit que malgré les visites à Porto Alegre, toutes ces thématiques-là sont pas encore intégrées dans le discours et dans la pensée politique de la gauche française, et c'est à mon avis un des défis majeurs des années à venir, et un des retards sur lequel la crise d'Attaque pèse négativement, parce que ça permet moins facilement de faire le passage et de transmettre les acquis.
Éric Gliansky.
Non, je pense que la question du passage au politique est que la structure d'Attaque telle qu'elle existe depuis sa création interdit le passage au politique dans la mesure où un certain nombre d'exigences consubstantielles ou logiques de la compétition politique font que ça peut pas marcher. Il faut des porte-paroles qui soient reconnues par tous et qui soient dans un processus de délégation et de représentation, alors même que le mouvement Attaque s'est construit contre cette logique de la représentation, de la délégation, alors avec des structures très complexes effectivement, mais la diversité du mouvement, cette volonté de gérer l'hétérogénéité, de choisir finalement des bannières les plus floues possibles pour agréger le maximum de qui était une des logiques du mouvement altermondialiste, et bien ça fonctionne pas à partir du moment où on se présente à une élection, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui se présente à une élection, il faut qu'il y ait un programme sur lequel tout le monde soit d'accord, ou sur lequel on fasse des majorités et des minorités. Alors effectivement, ça coince de ce point de vue-là, il y a une sorte d'incompatibilité organisationnelle qui explique sans doute ce passage et l'échec d'une tentative unique de candidature anti-libérale.
Alors, au fond, tout à l'heure, vous releviez l'importance, enfin la centralité du débat autour du traité constitutionnel européen, l'importance pour Attaque. Mais le paradoxe, c'est que on pourrait dire, après tout, Attaque qui appelait à voter non, à gagner et peut-être sa bataille au plan dans le cadre national la plus importante. Et le paradoxe, c'est que depuis, on a l'impression qu'Attaque a disparu. C'est-à-dire que ça a été une sorte de victoire, certes pas pour Attaque toute seule, mais cette association a depuis est moins présente que jamais. Je prenais les exemples tout à l'heure des campagnes électorales. On a l'impression que on en parle beaucoup moins là. Ces jours-ci, ce sommet G8. Bon, on a parlé un petit peu des mais surtout à travers les manifestants allemands. Enfin, on n'a pas eu l'impression qu'il y avait comme autrefois une implication des militants français aussi grande.
Oui, alors deux points par rapport à ça. Je pense que il faut pas aller trop vite dans le jugement négatif sur la difficulté d'Attac à s'inscrire dans un débat politique, parce que même en 2002, Attac avait eu les mêmes difficultés. Ils avaient fait un grand événement au Zénith en janvier 2002 qui avait eu beaucoup de succès, mais par la suite, ils avaient eu du mal à s'imposer dans des débats, parce que les débats sont très codifiés.
Bon, mais le G8, c'est pas les élections.
Alors, le G8, c'est effectivement pas les élections. Il est indéniable que Attac connaît une baisse de reconnaissance qui est en grande partie médiatique. Alors il faudra analyser les relations complexes entre Attac et les médias. Alors il faudra analyser le travail médiatique en tant que tel, et puis après l'appliquer à Attac pour voir effectivement dans quelle mesure c'était lié à un effet de mode passager, et puis voilà, on passe à un autre objet. Bon, Attac y joue aussi pour quelque chose, et la crise que l'association a connue joue pour quelque chose. Mais en revanche, je voudrais vraiment insister sur le fait que le traité constitutionnel européen et la campagne victorieuse n'est pas un facteur déclencheur de la crise, même si la crise a été visible à partir de l'été 2005, c'est-à-dire juste après. En réalité, elle existe de façon sous-jacente depuis déjà un voire deux ans. Bon. Donc il y a même une parenthèse de six mois pendant la campagne du traité du TCE, pendant laquelle les acteurs nationaux se sont dit bon, on essaye de la mettre un peu en sourdine pour œuvrer collectivement. Mais le TCE n'a à mon avis qu'un lien très éloigné avec la crise qu'a subi Attac. En revanche, Attac n'a pas bénéficié, en effet, mais comme beaucoup de forces qui avaient participé à cette victoire, n'a pas bénéficié de cette dynamique positive. Et il faudrait en analyser les raisons.
Christophe Aguiton.
Oui, mais Raphaël a tout à fait raison de pointer le fait que la crise d'Attac commence quasiment dès l'élection de Jacques Nikonoff en 2003. Et la raison, à mon avis, est avant tout politique. Il y a évidemment le poids des individus, leur façon de gérer les choses, mais c'est un peu marginal. La clé, c'est la résolution de ce débat sur le rôle d'Attac à partir de 2003, à un moment où en effet Attac n'a plus le monopole de la contestation de la pensée unique ou de la mondialisation libérale, et où surtout la pensée unique elle-même s'est fissurée. Hein. On peut dire que après 2001, entre les néoconservateurs américains, ceux qui continuent un peu, en particulier les Européens, dans l'idée d'une mondialisation maîtrisée par des institutions internationales, et puis des Stiglitz qui vont faire une critique très à gauche, hein, y compris de ce qu'ils ont fait, il y a des tas de voix qui s'ouvrent. Et donc tant par l'afflux des mouvements sociaux qui se développent dans ces années-là, que par le fait que les adversaires, ceux d'en face, sont divisés eux-mêmes, l'idée du monopole ne tient plus. Bon. Et donc là, on a en fait deux orientations dans Attac qu'on va retrouver dans les mouvements similaires en Europe. Donc c'est pour ça que c'est pas un débat seulement français et en tout cas pas lié au poids de tel ou tel individu, sur le fait de savoir s'il faut s'élargir à ces nouvelles thématiques et s'ouvrir à ces débats un peu plus complexes sur la mondialisation que ceux qu'on a eus entre 1999 et 2002, premier élément. Et deuxième élément, ceux de l'autre côté qui disent non, ces mouvements ne sont pas clairs. Hein, d'une certaine façon, on rejoue l'idée pure-impure. Les seuls qui ont une cohérence, une orientation claire, c'est Attac. Hein, les autres mouvements sont pas nets. Et on va voir Cassel et Nikonoff attaquer dès 2003 les mouvements de chômeurs, le rassemblement du Larzac, les autres syndicats, et avec derrière une vision organisationnelle qui est évidemment beaucoup plus centraliste, hein, puisqu'il s'agit de définir un projet plus cohérent sur le plan politique, plus resserré sur le plan organisationnel, avec donc une direction plus solide. Et c'est cette tension entre ceux qui sont pour la poursuite d'un élargissement avec les risques de la dissolution qui les implique, hein, et ceux qui sont pour le resserrement et organisationnel et politique, qui va enfin politique au sens idéologique, qui va être à l'origine de la crise d'Attac, qui va durer de 2003 à 2006. Et même pendant la campagne sur le traité constitutionnel européen, cette bataille va continuer, puisque l'association est divisée sur le fait de savoir s'il faut ou pas participer aux comités militaires locaux. Hein, ceux qui sont pour une association très resserrée sur elle-même, ils sont défavorables, avec l'idée que seule Attac peut porter la parole claire. Les autres, ils sont favorables, comme ils sont favorables aux forums sociaux, aux alliances plus larges.
Non, sur la crise d'Attac, il est évident que les divisions internes à la direction d'Attac, les conflits très forts qui se terminent par ces soupçons de fraude aux dernières élections en 2006, ça pose quand même un centre de problème lorsqu'on veut faire de la politique autrement, et ça va jeter une espèce de discrédit à l'intérieur du mouvement sur les manières de faire justement cette politique autrement. Au-delà de ça, je pense que s'agissant de l'international, il y a aussi une conjoncture, si les années 99-2003, disons, étaient une conjoncture favorable d'éclosion de mouvements qui se donnaient à voir comme internationaux, avec des jeunes, éventuellement radicaux et violents, mais qui donnaient des images d'une nouvelle contestation de ce nouvel ordre international, il y a une baisse de la mobilisation à partir de 2003. C'est-à-dire que les contre-sommets G8 sont moins fréquents, parce que d'abord la protection policière autour de ces sommets se fait plus forte, les entraves au voyage, au déplacement, aux mobilisations se fait plus forte. Hein. 2008, aujourd'hui, Rostock, là, ça fait 5 ans qu'il n'y a pas eu grand contre-sommet comparable à ce qu'on a connu au début des années 2000. Et de ce point de vue-là, finalement, ATTAC va pâtir un peu de ce déclin relatif de ces mobilisations internationales en termes d'image.
Juste un dernier mot, parce que c'est la fin de l'émission, et c'est aux chercheurs en nouvelles technologies, aussi télécommunications, où je le pose. Est-ce que l'ATTAC, au fond, on parlait de nouveautés tout à l'heure, n'a pas été la première association politique d'envergure à bénéficier à fond de l'Internet?
Absolument, mais c'était Lord Trotman qui avait écrit un très bon papier là-dessus, avec des fortes tensions, hein, parce que ceux qui s'exprimaient sur Internet au tout début d'ATTAC le faisaient en déconnexion des structures traditionnelles de l'organisation, et c'est pour moi le premier cas vécu, puisque j'en ai fait partie, mais aussi, je pense, pour les chercheurs, le premier cas très net d'un outil qui, dans ses pratiques quotidiennes, transforme et perturbe l'ordre traditionnel du fonctionnement des organisations.
Et j'ajouterais que ATTAC a démarré sur Internet avant même que les statuts soient déposés officiellement. Absolument. Puisqu'une liste de débats était déjà très active, déjà dès 1998.
Eh bien, Internet, le site de France Culture, sur lequel, évidemment, à la page La Suite dans les idées, vous pouvez podcaster l'émission et trouver aussi les références bibliographiques, donc, de ce livre de Raphaël Vintrebert, ATTAC, la politique autrement, point d'interrogation, donc, enquête sur l'histoire et la crise d'une organisation militante. C'est publié aux éditions La Découverte. Merci, Raphaël Vintrebert. Merci Éric Agricolianski et merci. Christophe Aguiton. Merci à Catherine Parent, Jean-Frédéric pour la technique, Brigitte Mazir à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine.